on en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Quand on entre dans l'exposition, il y a une sorte de haie d'honneur avec de grandes photos en noir et blanc. De part et d'autre de l'allée, on reconnaît Jacques Chirac et François Mitterrand, puis Raphaël Nadal et Roger Federer. Et en sortant, on garde dans la tête des images de chevaliers et de samouraïs, d'Achille et d'Hector, de David et Goliath, d'Harry Potter et Voldemort, ou du jeu vidéo Street Fighter. Héros antiques, aristocrates, chef de bang, homme politique, supporter de football et j'en passe, dans des genres, des styles, des pays et à des époques très différents. C'est un panorama très vaste sur un rite multiséculaire que nous offre le musée de l'armée aux Invalides, le temps d'une exposition intitulée « Duel, l'art du combat ». Elle est à découvrir jusqu'au 18 août et vous m'en direz des nouvelles. Et pour une émission sur le duel, il nous fallait évidemment deux invités, en l'occurrence deux des commissaires de l'exposition. À ma droite, Julia Beauvais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de projet muséographique au département exposition et muséographie du musée de l'armée. À ma gauche, Dominique Prévost, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des collections d'armes blanches au département ancien régime de ce même musée de l'armée. Une femme et un homme pour un duel, ça, normalement ça se fait pas, Julia Beauvais, on est d'accord hein.
Ah, on a quelques traités d'escrime qui en parlent pourtant.
Ah, quand même.
Quelques traités de duel, oui.
Voilà, bon, et puis parfois il y a des femmes dont on ne sait pas exactement que ce sont des femmes, on aura certainement l'occasion d'en reparler.
Complètement.
Voilà, mais on va commencer par un petit détour au cinéma. Les cinéphiles auront reconnu la musique et un extrait de la scène finale du Western Spaghetti de Sergio Leone et pour quelques dollars de plus avec Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté et Clint Eastwood, bien sûr sur la musique d'Ennio Morricone construite autour du tic-tac de la fameuse montre à gousset, duel de regard hein, sublimé par la caméra de Sergio Leone, duel au pistolet aussi, le duel au western. Dominique Prévost, vous en parlez dans le catalogue, c'est même avec justement ce duel que vous entamez le premier article du catalogue de cette exposition, mais vous ajoutez tout de suite que cette image très, très hollywoodienne, elle est iconique certes, mais elle est aussi réductrice et donc trompeuse. Pour quelle raison ?
Réductrice et trompeuse parce que le duel, ce n'est pas juste l'affrontement de deux personnes. Alors, d'une part, le duel de western, c'est en grande partie une construction d'abord de la littérature, puis du cinéma, puisque les duels face à face, le premier qui dégaine, ont été extrêmement rares. Il y en a eu quelques-uns, mais ils ont été extrêmement rares et ils ont été tellement relayés par la presse, puis par la littérature, que quand finalement le cinéma est arrivé, il s'est emparé de quelque chose qui était déjà impensif, donc c'est quelque chose, le duel de western, c'est donc quelque chose qui n'existe pas. Et ce duel de western, il gomme en fait une grande partie du duel, parce que le duel, c'est avant tout un rituel. Donc il y a des règles à respecter, à mettre en place, des témoins à rassembler, etc., etc. Tout un ensemble de règles et de pratiques qu'il faut mettre en place pour garantir l'équité de la rencontre.
Oui, Julia Beauvais, vous insistez beaucoup d'ailleurs dans l'ensemble du parcours de l'exposition hein, sur ce caractère rituel, voire même cérémoniel. Ça, c'est vraiment un point commun que l'on retrouve à toutes les époques et dans toutes les cultures, sur tous les continents.
Oui, et c'est ce qui différencie justement le duel de la rixe ou du simple homicide, justement. Donc ça change évidemment selon les époques et les endroits du monde. Mais c'est vrai qu'on explique quelques principes un petit peu pérennes à toutes les époques dans l'exposition.
Alors justement, vous parliez de la différence entre le duel et la rixe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ? Parce que en fait, ce n'est pas forcément deux personnes qui sont en jeu. Alors que dans le mot duel, on pourrait penser que, étymologiquement parlant, c'est quand même un affrontement à un contre un.
Oui, complètement. Bah, ce qui différencie le duel de la Rix, notamment, c'est l'aspect différé du combat. C'est ce que nous on dit, en tout cas. C'est-à-dire que la Rix, c'est une explosion de violence qui suit tout de suite une brouille. Et dans le cas d'un duel, il y a brouille, effectivement. Mais à ce moment-là, la personne qui se sent offensée envoie un cartel à la personne qui l'a offensée. Et ce cartel décrit justement les raisons de cette offense et demande réparation, mais ultérieurement. Donc, il y a un caractère différé de la violence qui s'installe.
Alors, on va essayer de définir rapidement quelques points communs et quelques différences aussi. Est-ce que le duel, c'est une pratique aristocratique? Ça aussi, c'est un cliché. Hein. C'est vrai qu'on pense toujours aux gens en armure ou avec une perruque ou aux mousquetaires, évidemment. Est-ce que le duel, c'est l'apanage des aristocrates et plus globalement des riches, Julia Bové?
Eh bien, c'est vrai que ça répond à un certain éthos aristocratique. C'est vrai, le sentiment de l'honneur, le sentiment du courage, etc. Mais on montre dans l'exposition, justement, que, en fait, ce sont des valeurs qui infusent au-delà des élites aristocratiques et qu'on peut retrouver à peu près dans toutes les couches sociales.
Alors, par exemple, il y a une gravure dans l'exposition qui est accolée à un article de presse, un article d'un journal américain, 1863, on est aux États-Unis, qui évoque le duel au fouet. Oui. Donc, on est pendant la guerre de sécession, Julia Bové, et on voit donc des Noirs en train de s'affronter avec un fouet. On est dans le sud des États-Unis.
Effectivement, un duel d'esclaves au fouet. Ce qui est intéressant, c'est que ce duel d'esclaves reprend certaines des modalités du duel qu'on peut connaître, notamment en Europe, c'est-à-dire deux personnages, des armes égales, un certain public, un endroit délimité aussi pour l'affrontement. Maintenant, c'est vrai que nous, on n'a pas trouvé d'exemple réel, concret, en tout cas que ces duels-là existaient. Mais c'est intéressant de montrer que voilà, il y a un regard un petit peu décentré sur ce type de combat supposé, en tout cas dans une autre partie du monde à ce moment-là.
Voilà, les supporters de football sont également des duelistes. Ça aussi, on l'apprend dans l'exposition.
Oui,
Dominique Prévost.
On présente en photo dans l'exposition quelques clichés issus d'un reportage photographique qui a été fait par Sébastien Stevenier, qui a suivi des hooligans d'un club anversois. Et ces hooligans, en dehors des affrontements qui peuvent avoir lieu en marge des matchs, se donnent rendez-vous avec d'autres clubs de hooligans pour se livrer à des combats qui répondent à certaines règles et par là qui ont cet aspect de violence ritualisée avec d'autres clubs de hooligans. Donc on se donne rendez-vous à un endroit précis.
Mais à un contre un également, c'est
un peu différent. C'est qu'on se bat en groupe, mais à chaque fois un contre un. Il ne peut pas y avoir deux personnes contre une personne. Donc c'est un combat en groupe, mais individuel, et on applique les règles qui sont appliquées dans les combats de MMA.
Ouais, donc voilà, les hooligans et le duel, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément tout de suite à cette association, mais c'est l'un des intérêts de cette exposition, de battre en brèche des clichés, et en même temps d'en apprendre aussi sur d'autres thématiques à ceux qui la visitent. Même chose pour les Apaches. Alors là, on pense évidemment aux gangs de rue, hein. On est à la fin du 19e siècle, début 20e, juste avant la guerre de 14. Autre photographe, Yann Morvan, hein, qui a travaillé justement pour ces fameux gangs de région parisienne, gang story, Julia Bové.
Oui, complètement. Bah, juste à côté justement des quelques clichés de Sébastien Stevenaire dont parlait Dominique, on présente aussi quelques clichés de Yann Morvan, qui a travaillé sur les gangs de région parisienne depuis les années 70 et jusqu'aux années 2010. Et on voit notamment un chef de gang intégrer une nouvelle recrue dans ce gang-là en lui proposant un rite initiatique qui ressemble effectivement à un combat de 1 à 1. Donc on voit que voilà, y a des résurgences de ce type de combat dans ces micro-sociétés là.
Et donc il y a cette dualité entre le groupe et l'individu. Vous faites aussi référence aux étudiants germanophones et aux Mansour. Je ne sais pas s'il faut dire là ou le Mansour.
La Mansour.
Alors c'est quoi la Mansour, Dominique Prévost?
La Mansour, c'est un type de combat auquel se livraient les étudiants germanophones. Donc ça touche les pays germaniques, la Pologne, la Lituanie et un peu la Suisse. Et donc dans ces combats, le but du jeu est d'affronter son adversaire. Donc le combat a lieu dans une enceinte délimitée et on ne doit pas reculer. Il faut faire preuve de courage dans un combat au sabre dont la lame est émoussée. Et donc les combattants ne portent pas de protection à part des lunettes et un petit cache-nez en cuir pour éviter les blessures trop handicapantes. Et le but de ces combats, donc, ce n'est d'affronter son adversaire au sabre, de ne pas reculer pour faire preuve du plus grand des courages. Et le fin du fin, c'est de recevoir une cicatrice lors de ces combats. Et ces cicatrices qu'on appelle les schmiss sont soignées de manière à ce qu'elles soient extrêmement voyantes. Parce que cette cicatrice, c'est un marqueur social qui permet à l'étudiant de dire qu'il a intégré une communauté d'étudiants. Et ça fait preuve aussi d'une certaine stature sociale et morale.
Et c'est un genre de combat que l'on retrouve aussi sur d'autres continents, l'Amérique latine ou l'Afrique ?
Tout à fait, oui. On expose juste en face, dans la vitrine en face, un bracelet de combat des Bilakoro. Les Bilakoro au Mali, ce sont des jeunes hommes qui sont à la fin de l'adolescence, qui n'ont pas encore gagné le monde des hommes, et qui, pour passer ce stade, doivent se livrer à des combats de lutte avec des bracelets dont l'intérieur, qui portent à l'intérieur du poignet et qui met une petite lame. Et donc, dans ces luttes, ils doivent empoigner leur adversaire par le dos et lui lacérer le dos, provoquant ainsi des cicatrices qui sont tout à fait comparables à celles qu'arboraient les pratiquants de Mansour.
Aquí no hay muñequitos Mickey. On the street surviving like freakies. Rebels is the stamp of our soul. The new sound of the funk, the jazz, the hip hop y el soul. Rebels como el Afrocari, el Mozambique, de Guaguancoy, Yoruba y Abacuá. De tradición, de libertad, del fruto y las raíces. De unión, diversidad, blancos y negros. De batá, de batá, de batá.
Afro-Cuban Soul Rebel, Daimé Airocena et Ogwere dans la playlist RFI de ce mois de mai dans VMDN, une émission aujourd'hui autour de l'exposition Duel, l'art du combat, à découvrir actuellement et jusqu'au 18 août au musée de l'armée dans l'hôtel des Invalides à Paris. Alors évidemment, c'est pas un hasard, hein, l'exposition s'ouvre à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. On n'est pas très loin du Grand Palais, hein, de l'autre côté de la Seine, hein, qui accueillera les épreuves olympiques d'escrime, un sport de combat dont le français, d'ailleurs, faut-il le rappeler, est la langue officielle. Hein, en garde, prêt, aller ou halte, ce sont des mots qu'on entend quand on suit les épreuves d'escrime au JO ou ailleurs. L'escrime, c'est l'enfant du duel, Dominique Prévost.
C'est la continuation du duel, parce que l'escrime, à l'origine, c'est une formation aux arts martiaux qui prépare à la guerre. Mais avec la théorisation des techniques d'escrime et au XVIIe siècle en France, l'apparition d'une école française qui va privilégier le fleuret, le style le respect de son adversaire, on va développer à ce moment-là une pratique qui va se rapprocher de plus en plus du sport et qui va donner naissance au sport à la fin du 19e siècle.
Voilà, c'est l'un des premiers sports olympiques, d'ailleurs. Hein. L'escrime, alors dans l'exposition, d'ailleurs, aux Invalides, il y a une tenue d'escrime qui a appartenu à un élève de l'école de Saint-Cyr. Hein, dans les années 1920, l'armée a toujours été en pointe, d'ailleurs, dans cette discipline sportive.
Tout à fait, parce que
pointe sans mauvais jeu de mots, bien sûr.
La pratique de l'arme blanche est au cœur de l'âme militaire. Même à l'époque où l'arme blanche n'est plus utilisée sur le champ de bataille, remplacée par l'arme à feu, le fusil, on l'enseigne quand même aux troupes jusqu'à la fin du 19e siècle. Et même après, son enseignement sera obligatoire pour les officiers qui vont acquérir par là l'éthos aristocratique.
C'est une sorte de code d'honneur. Quoi,
c'est tout à fait un code d'honneur.
Oui, et c'est vrai qu'on voit encore aujourd'hui, lors des défilés du 14 juillet, lors de la fête nationale française, certaines écoles d'officiers défiler avec le sabre.
L'arme blanche, même si elle a disparu des champs de bataille, reste quand même un insigne de fonction, la marque de l'appartenance à une catégorie, une caste, celle des officiers.
Alors, l'escrime, c'est un sport olympique, je l'ai dit tout à l'heure, dès les premiers Jeux modernes, avec au début deux nations phares, la France et l'Italie. Et on ne plaisante pas hein, au tout début, hein, c'est la rivalité entre maîtres d'armes est très forte qu'en 1902, donc à Londres, les choses vont dégénérer et dépasser le cadre sportif.
Totalement, parce que nous sommes à une époque où l'olympisme est né quelques années avant, mais les règles avant la création de la Fédération internationale d'escrime, les règles peuvent être différentes suivant les pays où on pratique l'escrime, notamment en France et en Italie, et il y a des querelles d'école qui sont très très violentes. Et qui, des fois, sont un peu amplifiés par la presse, parce que tous ces sujets, notamment le duel, fait vendre beaucoup de papier, et qui n'hésite pas, une certaine presse, qui n'hésite pas à souffler sur les flammes. De cette rivalité sportive entre des maîtres français et des maîtres italiens, on va arriver à un vrai duel, totalement rocambolesque.
Voilà, entre autres, entre le français Mérignac et l'italien Pessina, donc vous l'évoquez dans l'exposition.
C'est ça qu'on représente dans l'exposition par une petite scène reconstituée.
Donc avec des mannequins, et puis évidemment.
C'est ça, un escrimeur en position de duel. Donc Mérignac et son comparse Kirchhoffer, qui sont deux maîtres français très connus, lancent un défi sportif, à leurs homologues italiens qui répondent par voie de presse, par des insultes et des défis, dont deux, Franco Vega et Francesco Pessina, qui les traitent d'historiens bouchés, de faux gascons, impuissants, etc. etc. Tout ça pour voie de presse, et là, du coup, le duel devient inévitable. Même si la France et l'Italie veulent l'empêcher, parce que diplomatiquement, les deux pays sont dans une situation un peu particulière. Mais il a quand même lieu. Il est organisé donc en décembre 1902 à Nice. On met en place une organisation assez particulière pour pouvoir brouiller les pistes et perdre la police qui suit leurs traces. Donc on se rejoint à Nice, mais on part dîner à Monaco en train, mais on revient en voiture en laissant sur place les gens de la Sûreté nationale. Et donc on se retrouve le lendemain à Nice pour se battre. Et le résultat est sans appel, les deux Italiens sont blessés par les deux Français.
Voilà. L'image qui vient tout de suite quand on évoque le duel, c'est évidemment le duel à l'épée. Hein. C'est évidemment D'Artagnan, les trois mousquetaires, les livres, les films de cap et d'épée, mais la pratique du duel ne remonte pas du tout au grand siècle, hein, elle est beaucoup plus ancienne. Julia Beauvais, est-ce qu'on sait d'ailleurs quand a eu lieu le premier duel ?
Alors le premier duel, non, je crois qu'on ne sait pas. Par contre, c'est vrai que nous, dans l'exposition, on date les débuts du duel par ce qu'on appelle le duel antique. C'est un type de duel qu'on retrouve notamment dans les mythologies grecques, mais qu'on peut aussi retrouver par exemple dans la Bible avec le combat de David et Goliath. Dans ce type de combat-là, les deux combattants justement représentent leur cité, représentent leur armée. Ils concentrent en une seule personne finalement un conflit autre, et ce sont des champions qui se battent à ce titre-là.
Oui, ça permet de faire couler moins de sang, et en même temps c'est une sacrée responsabilité pour chacun des champions. Voilà. Donc David et Goliath dans la Bible, ou Hector et Achille, en particulier dans l'Iliade d'Homère, des thèmes antiques et bibliques qui ont évidemment été abondamment repris hein, par la peinture et par la sculpture. Là aussi, il y a quelques exemples dans l'exposition. Et vous soulignez que, justement, les artistes ont magnifié le courage, mais aussi la virilité, la masculinité des combattants.
Oui, c'est ça qui est intéressant dans le thème du duel, c'est que en fait, la fiction et la réalité s'entremêlent un petit peu, et on voit que ces grands modèles antiques, ils infusent ensuite, notamment dans l'aristocratie européenne. Ce sont les valeurs qu'ils prônent qu'on retrouve par exemple dans les romans de chevalerie, ces romans de chevalerie qui influencent eux-mêmes le roman héroïque du XVIIe, et puis ensuite les romans de cap et d'épée qu'on connaît. Donc il y a vraiment un cycle d'emprunt et de référence qui se crée à ce moment-là, au moment de ces duels antiques.
Oui, et qui continue d'ailleurs d'infuser dans les mentalités européennes.
Complètement, on a encore aujourd'hui des films de mousquetaires, des films qui présentent la matière de Bretagne, le roi Arthur, etc. Donc c'est encore présent aujourd'hui. Ouais.
Alors là, on est donc dans le duel héroïque. C'est l'une des catégories que vous listez dans l'exposition. Il y a aussi le duel ordalique. Alors l'ordalie, c'est un mot peut-être que tout le monde ne connaît pas. C'est un mot qui vient du Moyen-Âge. C'est quoi une ordalie ?
Une ordalie, c'est le jugement de Dieu finalement. Et du coup, le duel ordalique, c'est une procédure qui pour le coup est judiciaire, qui permet, dans le cas d'un procès, généralement un procès pour faits graves, quand on ne peut pas trancher qui est le coupable et qui est l'innocent parce qu'on manque de preuves, on organise un duel ordalique. Donc c'est un duel où les deux belligérants s'affrontent et on estime que Dieu se manifeste dans ce duel-là et qu'il donne la victoire à la personne qui dit la vérité.
Voilà, c'est la justesse de la cause du vainqueur qui
Exactement.
Est récompensée par la victoire.
Voilà. Et on peut penser que le duel de David et Goliath répond justement à ce système ordalique-là, puisque la personne qui remporte ce duel-là, David, est la personne qui est censée être la moins forte des deux.
Donc là, on est clairement dans le cadre du judiciaire, donc de la loi, et en même temps du sacré. Comment l'Église se positionne justement dans ce débat ? Parce que dans la Bible, on dit quand même « tu ne tueras point ».
Oui, très vite, l'Église se positionne contre ces duels ordaliques, parce que justement, mettre au défi Dieu de se manifester, c'est pas quelque chose qui semble correct à l'Église. Et d'ailleurs, au-delà de ces duels ordaliques, l'Église va beaucoup condamner moralement la pratique du duel, même ensuite. Quoi.
Et c'est dans le cadre de ces duels ordaliques que vous évoquez dans l'exposition le duel entre Carouge et Le Gris ?
Oui, complètement. Considéré comme le dernier duel judiciaire ordalique de France, justement, qui a fait l'objet d'un traitement au cinéma par Ridley Scott en 2021.
C'est l'honneur d'une dame là, qui était en jeu.
Complètement. C'est la dame de Carouge, Marguerite de Thibouville, qui accuse Jacques Le Gris de viol. Et l'affaire se règle par un duel judiciaire. Jacques Le Gris est battu. Donc on pourrait croire qu'il était effectivement le coupable. Et en fait, quelques contemporains disent que justement, quelques années plus tard, un autre homme s'accuse de ce viol-là. Donc on voit bien que là, typiquement, la justice de Dieu n'est pas forcément une science exacte et ça décrédibilise aussi ce principe judiciaire. Ouais.
Alors dans cette affaire, la femme est donc à l'origine du duel. C'est souvent le cas, hein, Julia Beauvais. Soit on se bat pour l'honneur d'une dame, parfois pour sa main ou juste pour lui montrer son courage et ses qualités, son ardeur au combat. Les femmes, elles se battent aussi ?
On parle évidemment de cette question des femmes dans l'exposition. Elles sont présentes dans les duels en périphérie, comme vous le disiez. Elles peuvent être l'objet du combat. Elles peuvent être aussi l'élément de médiation qui essaye de réconcilier les deux duellistes. Mais il arrive qu'elles soient aussi actrices de ces combats-là. Assez rarement, c'est plutôt une pratique masculine, évidemment. Mais il existe quelques cas de femmes duellistes et on en traite un particulièrement dans l'exposition, qui est le cas de Mademoiselle de Maupin. Une actrice du XVIIe siècle dont la vie a été aussi ensuite romancée au XIXe siècle par Théophile Gautier et qui se serait battue notamment avec Monsieur de Luynes, donc un jeune noble.
Chanteuse aussi à l'Opéra de Paris. Et,
Exactement.
Et la légende, je ne sais pas si c'est la légende ou l'histoire, dit qu'après le duel.
L'histoire
d'amour a commencé.
Exactement. Elle remporte ce duel contre Monsieur de Luynes. Elle est habillée en homme, elle est travestie, donc il ne se rend pas compte au début qu'il se bat contre une femme. Et quand il s'en rend compte, ça se termine par une histoire d'amour supposée, complètement.
Thank you. Quelques mesures de la célèbre danse des chevaliers du Roméo et Juliette de Prokofiev sur RFI, interprétée ici par l'Orchestre symphonique de Boston, dirigé par Seiji Ozawa, et que l'on entendra le 23 mai en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, cette fois avec l'Orchestre symphonique de la Garde républicaine sous la baguette du colonel François Boulanger, car cette exposition, Julia Beauvais, Duel, l'art du combat, s'accompagne aussi de toute une programmation musicale.
Oui, complètement, et pas que musical. En fait, pour chacune de nos expositions au Musée de l'Armée, on accompagne les expositions d'un programme musical d'une part, d'un cycle cinéma aussi, et en l'occurrence pour Duel, d'un cycle de conférences que vous pouvez retrouver sur le site.
Sur le site internet, évidemment, du musée. Et sur l'affiche de l'exposition, on a deux épées qui croisent le fer. Ce sont bien deux épées, Dominique Prévost. Vous êtes un spécialiste des armes blanches, et il y en a des armes blanches dans l'exposition. Il y a des épées, des fleurets, des sabres, des estoques, des couteaux, des poignards. Vous pouvez nous expliquer les différences de base entre ces différents types d'armes blanches, très simplement, hein, mais à la base.
Alors, l'épée, c'est une arme à lame droite qui peut frapper de pointe ou de taille. Le sabre, c'est une arme dont la lame est le plus souvent courbe, qui est plutôt faite pour taper de taille. Ça, dans les duels, c'est plutôt réservé aux militaires.
D'accord.
Qui en maîtrisent mieux le maniement.
Le fleuret ?
Le fleuret, c'est une arme d'entraînement qui n'est pas pointue. Et dans la lame est de section carrée, qui n'est pas pointue. Donc, c'est une arme destinée à pouvoir pratiquer l'escrime sans blesser son partenaire.
Bon, le couteau, ça, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Le poignard, c'est un grand couteau ou c'est plus compliqué que ça ?
Ou
c'est une petite épée.
Le couteau, c'est normalement plus fait pour couper que le poignard, c'est uniquement fait pour piquer.
D'accord, bon, effectivement, c'est très clair. En plus, il y a différentes sous-catégories. Hein, on reste vraiment, évidemment, dans l'écume des choses. Par exemple, il y a des épées asiatiques dans l'exposition. Le taloir indien, par exemple, c'est une épée ?
C'est une épée, mais il y a plusieurs types, parce qu'il y a des choses qui se sont hybridées. Celui qu'on présente a une lame courbe, c'est plutôt un sabre.
C'est plutôt un sabre,
oui. Ça fait partie des armes traditionnelles du duel en Inde.
Voilà, alors en Asie, évidemment, on pense au Japon. Lorsqu'il est question d'armes blanches, il y a dans l'exposition plusieurs extraits de films, notamment un extrait du film de Takeshi Kitano, La légende de Zatoichi, le masseur aveugle. Et on voit tout l'art du sabre, hein, tout le rituel, le décorum, hein, comme on disait tout à l'heure. On voit aussi l'efficacité avec des giclées de sang qui vont avec. C'est très impressionnant. Et puis, dans un style différent, vous avez aussi évoqué, dans une scène reconstituée, justement, un duel qui est entré dans la légende japonaise entre Miyamoto Musashi et Sasaki Kojiro. On est au XVIIe siècle.
Oui, nous sommes en 1612. Et ce sont deux maîtres d'armes japonais qui s'affrontent pour affirmer l'excellence de leur style et de leur école. Et c'est un duel qui est devenu mythique au Japon et un monument célèbre encore cet événement sur l'île de Kanryu où il a eu lieu. Et c'est un duel qui est un peu particulier parce qu'il oppose deux maîtres d'armes qui ont des styles différents et qui vont se battre avec des armes différentes. Alors que dans le modèle européen, on a plutôt tendance à chercher l'égalité des armes. Pas du tout au Japon, et c'est pareil en Chine. Et donc Musashi arrive sur l'île très en retard, et il a profité du voyage pour se tailler un sabre d'entraînement, un boken, dans une rame de son bateau. Et Kojiro l'attend, il est très très énervé, et ça c'est une tactique dans le combat, énerver son ennemi pour le pousser à la faute. Et donc Kojiro saute sur son ennemi, jette le fourreau de son sabre à l'eau. Et là, symboliquement, c'est très important dans l'époque, parce que si on jette son fourreau, ça veut dire qu'on n'aura pas l'occasion de le remettre dedans. Donc oui. On se déclare perdu.
D'accord.
Et Musashi frappe Kojiro de son boken qui est extrêmement long, et ils lui font le crâne, puis les côtes, et il gagne donc son duel. Mais c'est un duel qui va être transposé dans le théâtre, qui va faire l'objet de plusieurs interprétations, de plusieurs traductions. Il y a donc beaucoup de versions qui en découlent.
Les maîtres de l'estampe aussi, s'en sont emparés, et ça aussi, on l'évoque dans l'exposition. Alors toujours dans la galerie des armes blanches, si j'ose dire, il y a des armes indonésiennes que vous nous présentez, le sellurite qui est une sorte de fossile.
Le fossile, oui.
Voilà, et le badik qui est un couteau.
Est un couteau, oui.
Ce sont des
objets qui sont à mi-chemin entre l'objet d'agriculture, l'outil,
oui.
Et l'arme de défense personnelle, qui sont utilisées dans certaines formes de duels en Indonésie. Notamment, le badik est utilisé dans une forme de duel dans lequel les deux adversaires s'enroulent dans le même sarong. Et donc, l'espace dans lequel se déroule le duel... qui en Europe, c'est un champ, ce sont des lys. En Indonésie, dans ce cadre-là, c'est un sarong. Donc les deux adversaires sont extrêmement près. Et ce sont des formes de duel extrêmement violentes.
Alors, à côté de ces armes blanches qu'on vient d'évoquer, vous exposez une main de gloire. Alors ça, c'est très étonnant. Je pense que c'est l'un des objets peut-être le plus étonnant de l'exposition. Mais on est dans l'armement ou on est dans la sorcellerie, Dominique Prévost?
On est totalement dans la sorcellerie. C'est une main de gloire. En fait, c'est une main momifiée. Qui nous a été prêté par une association qui s'appelle les archives de l'Entrecave. Donc c'est une main momifiée sur laquelle on a fixé des bougies. Et quand elles sont allumées, ces bougies ont cette main de gloire a la capacité magique, dont celui de voir dans le noir sans être vu ou d'ouvrir les portes. Mais la spécificité de ces mains de gloire, c'est qu'il faut qu'elles aient été achetées de leur vivant à quelqu'un qui a été condamné à mort par pendaison. Et celle qu'on expose, d'après Gérard de Nerval, qui part de cet objet, cette main aurait été prélevée sur un pendu qui avait été exécuté pour avoir tué un militaire lors d'un duel.
Ah d'accord, effectivement, là tout s'éclaire, si j'ose dire. Alors il n'y a pas que les armes blanches dans l'exposition, il y a aussi les armes à feu, les pistolets. Petit à petit, ils ont remplacé l'épée Julia Beauvais.
Ils n'ont jamais remplacé l'épée. On les observe dans les duels à partir du XVIIIe siècle et concomitamment avec les duels à l'épée. Mais c'est vrai que l'arme blanche a une aura particulière dans les mentalités qui fait que l'arme blanche va continuer à être utilisée en duel jusqu'au XXe siècle.
Oui, et d'ailleurs, ce que l'on considère comme le dernier duel en France s'est déroulé à l'épée. Nous sommes en 1967.
Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Arbitre, M. de Lipovski. Offensé, M. René Ribière, député 5e République du Val-d'Oise. Insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Offenseur, M. Gaston Defferre, député maire de Marseille, socialiste. Les témoins des deux adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier sang. M. Defferre, qui eut déjà une explication au pistolet avec M. Paul Bastide, prit rapidement l'avantage sur M. Ribière, qui pour en être à ses premières armes semblait moins assuré. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, M. Defferre touchait son adversaire à l'avant-bras. Le premier sang venait d'être versé. M. Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat, non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique n'est guère de notre temps. Lorsque, sur une nouvelle botte, M. Ribière fut une fois encore touché, l'arbitre arrêta la rencontre.
Ouais, et le film en noir et blanc est évidemment dans l'exposition. C'est un épisode qui figure souvent en bonne place dans tous les livres d'histoire parlementaire. Julia Beauvais, le duel parlementaire, c'est une vraie tradition en France?
Oui, nous, on la date justement de la Révolution française. Hein, c'est le moment où le duel quitte un petit peu le monde aristocratique pour devenir l'apanage d'une nouvelle élite qui est une élite plutôt politique, littéraire, journalistique, etc. Donc c'est effectivement quelque chose qui naît à la fin du XVIIIe et qui se perpétue beaucoup au 19e et jusqu'au 20e siècle.
Et on se rend bien compte là, dans le commentaire d'époque qu'on a entendu de la dimension très, très codifiée du duel. Donc ouais. D'abord, il y a l'offense, il y a donc l'offensé qui provoque l'offenseur en duel. Donc là, c'est vraiment un duel d'honneur, finalement, que ce duel entre M. Ribière et M. Defer.
Oui, c'est un duel d'honneur, mais c'est vrai que les duels politiques à partir du 19e et aussi du 20e siècle, ce sont des duels un petit peu aussi pour la publicité. C'est-à-dire que ça devient, surtout après la Première Guerre mondiale, une sorte de coquetterie un petit peu politique. Et on se bat en duel comme une sorte de spectacle, en quelque sorte. On se fait connaître aussi en se battant en duel.
Bon, alors, l'usage veut aussi, pour rester justement dans la dimension rituelle très importante qu'on évoquait dès le début de cette émission, l'usage veut aussi que l'offensé ait le choix des armes. Il a un choix très très large, Dominique Prévost. Il choisit l'arme qu'il a envie d'avoir. Il pourrait, je sais pas, choisir le jeu d'échecs, un jeu de cartes, ou c'est vraiment un combat physique que l'on attend.
C'est dans le cadre d'un duel, oui, c'est plutôt un combat physique qu'on attend. Néanmoins, on a une assez grande latitude sur le choix des armes, parce que il y a des gens dont on a assez peu parlé jusqu'à présent, ce sont les témoins, et ce sont eux qui mettent en place et qui organisent la rencontre. Et donc
chacun des duellistes, donc l'offensé et l'offenseur, chacun d'eux a son témoin ou ses témoins.
Ses témoins. Normalement, ils sont au nombre de deux. Et à partir du moment où la dispute a eu lieu, normalement, les intervenants n'ont plus à se parler. Ce sont les témoins qui doivent aller de l'un à l'autre et organiser le duel. Et à ce moment-là, on peut choisir, effectivement, les armes qu'on veut tant qu'on tombe d'accord avec les témoins adverses.
Mais alors justement, là, on a entendu là, dans le commentaire du sujet d'actualité, M. Ribière a été l'offensé, donc c'est lui qui a eu le choix des armes, et donc c'est lui qui a choisi l'épée,
oui.
Et il n'avait aucune expérience de l'épée, contrairement à son adversaire. C'est quand même très étonnant comme choix.
C'est-à-dire qu'on est là, donc c'est le dernier duel en France. Le commentaire dit aussi qu'on a choisi un duel au premier sang.
Oui.
C'est-à-dire que, quelle que soit la blessure, même une égratignure, on considérera que la querelle est vidée. Donc c'est un duel qui manque, on ne cherche pas à affronter vraiment un danger réel. On cherche à s'affirmer, à s'afficher.
Parce que là, il n'y a pas d'égalité des armes, quoi. Si on a un qui sait très bien manier l'épée et l'autre qui n'a aucune expérience.
C'est un peu le problème du duel à l'épée. Néanmoins, même les gens inexpérimentés à l'épée peuvent gagner. C'est ce qui se passe avec le duel Jarnac-La Châtaigneraie. Jarnac a un duel avec La Châtaigneraie, qui est un excellent escrimeur, et il arrive quand même à le vaincre par un coup inattendu.
Voilà, le coup de Jarnac, c'est le fameux coup de Jarnac dans toute l'histoire de l'escrime.
Donc à l'épée, on a quand même toujours une chance, même si elles sont pas
complètement égales.
Si elles sont pas complètement égales, tandis que si on choisit le pistolet, on a des chances qui sont plus égales, oui, mais on a aussi beaucoup de chances de mourir.
Il y a forcément un arbitre dans les duels, oui, forcément.
Forcément.
Comment est-il choisi, cet arbitre?
Par convention, généralement, c'est l'un des témoins, et là encore, les témoins discutent et choisissent. Et s'ils n'arrivent pas à tomber d'accord, on prend un arbitre extérieur.
Voilà, et parfois, il y a un médecin aussi qui est là.
Souvent, il y a un médecin.
Souvent, il y a un médecin. Alors, le duel, on le disait, se termine au premier sang. C'est aussi ainsi que se termine un autre duel évoqué dans un film sur le même écran, d'ailleurs, au sein de l'exposition. Il oppose un tout petit peu plus tôt, en mars 1958, un danseur et chorégraphe célèbre nommé Serge Liffard et un personnage complètement extravagant, le marquis de Cuevas, dont l'un des témoins est alors un certain Jean-Marie Le Pen. Nouvelle archive.
Premier acte d'un ballet duel à sensation, une usine au point du jour. Après avoir déposé ses emblèmes, Serge Liffard esquisse quelques entrechats préliminaires. Arrivée en carrosse de l'irréductible marquis de Cuevas. Ballet des journalistes autour du danseur étoile, ce qui indispose le marquis qui prend la fuite. Cortège général sur les traces des deux héros. Deuxième acte, un vieux moulin près de Paris. On flambe prudemment les épées. Quadrille des témoins, dernière recommandation. En garde, messieurs. Ici, il convient de changer de ton. Le moment est pathétique, car une maladresse est toujours à craindre. point nommé, très courtoisement, Liffard heurte de son bras l'épée adverse et une gouttelette de sang pleine de bonne volonté met fin à ce drame affreux. Troisième acte, les deux adversaires s'en retournent au moulin, De Cuevas navré, Liffard blessé. Que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le marquis qui s'alita. Parle longtemps, duo de la réconciliation, fin du ballet, rideau.
Voilà, beaucoup d'ironie hein, dans le commentaire des actualités de 1958. Julia Beauvais, là on est clairement dans le spectacle, on est dans l'esbrouf.
Oui, 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 complètement. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que le duel, la pratique se spectacularise tout au long du 19e siècle et on arrive effectivement au 20e siècle à des duels spectacles un petit peu qui font venir un certain nombre de journalistes, un certain nombre de publics. On n'est plus du tout dans le duel secret, le duel à la marge.
Pourtant, les duels à ce moment-là sont interdits en France.
Oui, complètement.
D'ailleurs,
ils sont interdits d'ailleurs parfois par les personnes qui le pratiquent, c'est ça qui,
voilà,
qui est intéressant.
Voilà, ça aussi, ça en dit long, effectivement. D'ailleurs, vous vous intéressez aussi dans cette exposition à la façon dont l'État se positionne par rapport au duel, et singulièrement en France, il y a eu des périodes assez différentes.
Oui, il y a eu des périodes d'oscillation. C'est vrai que nous, on date vraiment le moment où l'État interdit très largement le duel aux alentours de Louis XIII, Louis XIV. Louis XIV, notamment, a prétendu avoir arrêté la fureur des duels. On présente d'ailleurs dans l'exposition un grand carton, donc un dessin préparatoire de Charles Lebrun, qui présente justement une peinture qu'on trouve dans la galerie des glaces de Versailles, qui s'intitule La fureur des duels arrêtés, et qui prend place dans la galerie des glaces parmi ses plus grandes victoires politiques, militaires, mais aussi sociales.
Oui, d'ailleurs, dans Les Trois Mousquetaires, alors on est juste avant, hein, sous Louis XIII, le cardinal de Richelieu interdit les duels. Et D'Artagnan va aller à l'encontre de l'interdit.
Oui, c'est ça qui est intéressant aux alentours du XVIIe siècle en France, c'est que finalement, le sens de l'honneur est tellement fort pour une certaine frange de la population, une certaine aristocratie, qu'il prévaut, bien sûr, sur le respect de la loi. Voilà.
Ouais, et puis, un autre type de duel que vous évoquez dans l'exposition, qui, lui, n'est pas interdit, c'est le duel culinaire. Alors, ça va beaucoup étonner, et vous le faites à travers un extrait de film, Le Festin chinois de Tsui Hark, avec une arme pas comme les autres, des nouilles sautées au bœuf.
Des nouilles sautées au bœuf?
C'est la base, s'ils s'imaginent nous impressionner avec des nouilles sautées au bœuf.
Contrairement à ce que vous croyez, c'est le plat le plus difficile à réussir avec le porc aigre doux. Les nouilles sautées au bœuf demandent une parfaite maîtrise de la température de l'huile et de l'intensité du feu. Le goût des nouilles doit être homogène. Il faut savoir doser la sauce pour ne pas altérer leur saveur. La viande doit être saisie quelques instants pour rester tendre. On mélange ensuite les deux ingrédients pour parfaire la cuisson. Lorsque la cuisson est réussie, au dernier coup de baguette, pas une goutte d'huile ou de sauce ne doit rester au fond du bol. L'ensemble ni trop gras ni trop sec, bien à point.
Patron, qu'est-ce qu'il fabrique là?
Ah, c'est une méthode pour cuire la viande sans qu'elle attache au fond du wok. Mais si elle brûle, c'est terminé.
Et l'on voit la dextérité du chef qui manie ses ustensiles comme des armes. On a entendu d'ailleurs même à la radio, ça fait exactement le bruit des armes blanches. Et puis on voit la flamme aussi qui embrase son wok. C'est une des images les plus impressionnantes de l'exposition. Et je voulais vraiment l'évoquer avant qu'on se quitte. En quoi ce film hongkongais avait vraiment sa place dans l'exposition, Julia Beauvais?
On trouvait ça intéressant de le présenter justement parce qu'il est filmé de la manière dont on filmerait un duel physique à l'épée ou au pistolet. Donc on voit que dans la production artistique et notamment dans la production cinématographique, il y a encore l'ombre un petit peu du mousquetaire ou du dueliste qui pourrait planer dans ces productions-là.
Voilà, et puis attention, spoil, vous évoquez aussi Harry Potter.
Oui,
voilà.
Oui, oui.
Donc ça se termine, on va peut-être pas raconter, mais un petit peu quand même, quoi. Du coup, on est obligé. Pourquoi Harry Potter dans une exposition sur les duels, Julia Beauvais?
Parce que justement, on termine cette exposition avec une évocation plus pop culture. On voit justement que le duel, il a très largement disparu de nos pratiques contemporaines, en tout cas dans le monde occidental. Mais il est encore très très présent dans nos modalités, notamment via la littérature, via le cinéma et aussi via le jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'on présente en conclusion de cette exposition une borne de Street Fighter 2 pour que les visiteurs puissent devenir eux-mêmes des duelistes, mais des duelistes pixelisés. visualiser, en quelque sorte.
Voilà, donc une dimension interactive aussi dans l'exposition. Merci beaucoup à tous les deux, Julia Beauvais et Dominique Prévost. Duel, exposition à découvrir aux Invalides au Musée de l'Armée à Paris jusqu'au 18 août. Aimé dans VMDN sur RFI, Maloïa Gazé dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI. On se retrouve demain bien sûr avec l'écrivain Jean Rollin pour son récit qui vient de sortir chez POL, Les Papillons du Bagne, et vous m'en direz des nouvelles.
Zarboutant.